Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi n'a-t-on jamais domestiqué les écureuils? Une lettre ouverte de Nemo Lieutier, parue le 1er juin 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Comme bien des membres de la diaspora française qui ont fait leur nid sur le plateau Mont-Royal, notre collègue, natif de Marseille, voue une tendresse particulière aux écureuils. À mes compatriotes expatriés et autres membres de ma team issus de l'immigration, c'est en ma qualité de nouvel arrivant que la question posée dans le titre s'est imposée à moi, et il ne fait aucun doute que vous vous la poserez également, si ce n'est pas déjà fait. Montréal regorge, parmi d'autres merveilles, d'une population importante d'êtres adorables. Non, je ne parle pas ici des brigadiers et brigadières scolaires, ni des tenanciers et tenancières de maisons de bubble tea, mais bien des écureuils. Ils sont duveteux, cute et agiles. Alors, à force de les prendre en photo, d'admirer leur mignonnerie et de la faire admirer à mes proches qui sont restés sur le vieux continent, j'en suis venue à me laisser emporter par la douce rêverie d'en avoir un chez moi et de déambuler sur Mont-Royal en le portant sur mon épaule. J'en ferai ma petite propriété poilue, la touche d'élégance qui manque à mon intérieur pop utilitariste léché, le dernier membre d'une famille tournée vers la modernité, sans faire fi de ses traditions pour autant. Je m'étonnais alors, au gré de mon intégration à la société québécoise, de ne rencontrer aucun propriétaire d'écureuil, ex-propriétaire ou aspirant-aspirante. Pire encore, mes voisins-voisines pointaient du doigt ces animaux en les accusant de tous les maux. Ils seraient nuisibles, une gang de mammifères terrorisant nos fleurs, pillant nos légumes et saccageant notre mobilier urbain. Rien de mieux que des rats, en somme. Mais croyez-moi, personne n'a jamais envoyé de photos de rats à sa grand-mère, accompagnée d'un petit mot joyeux « Bien arrivé, douce pensée ». Mais alors, pourquoi les chemins des humains et des écureuils ne se sont pas encore croisés? Pourquoi n'a-t-on jamais domestiqué les écureuils? À l'origine, chiens, chats et cheval ont été domestiqués il y a plus de 10 000 ans, multipliés par 7 pour toutou. Suivirent les animaux d'élevage, dont la domestication a joué un rôle majeur dans la sédentarisation de notre espèce. Ânes, vaches, cochons, poules, chèvres et lapins ont tous noué une relation privilégiée avec l'être humain. Une relation déséquilibrée et intéressée, évidemment. Nous nous occupons de nos animaux d'élevage comme la sorcière s'occupe d'Hansel et Gretel. Il est bien difficile de créer de belles relations humaines pour un anthropophage. Vient ensuite l'animal ornement, qui n'a guère plus d'utilité qu'une femme invitée à un dîner d'affaires dans les années 1950, catégorie dans laquelle l'écureuil pourrait en tout point se qualifier, au même titre que les hamsters, les geckos ou les beta splendens. Après tout, l'écureuil ne peut ni nous défendre ou nous aider dans nos labeurs, mis à part à la récolte de fruits en coque. Ne servant concrètement à rien d'autre qu'à embellir nos vies, il aurait toutefois le potentiel de devenir un marqueur social, un objet décoratif raffiné, bijou à nos oreilles percées. Au royaume de la mignonnerie, l'écureuil est roi. J'ai découvert au fil de mes recherches qu'il existe au Québec des groupes d'humains organisés se consacrant au sort des écureuils. Écureuil Land, probablement le plus important d'entre eux, se consacre à la réhabilitation des écureuils orphelins ou blessés et à leur maintien à l'état sauvage. Pour mener à bien sa mission, l'organisme s'appuie sur une toile dense et efficace. Quartier général, refuge, employés, bénévoles et familles d'accueil. Aucun autre nuisible ne pourrait se targuer d'un tel traitement et aucun rat d'Europe n'a jamais, petite Minerve au cou, profité d'un séjour complet pour se remettre sur pattes dans une famille aimante. Le « pretty privilege » ou « privilège de la beauté » existerait donc aussi pour les animaux. En 1949, Conrad Lorenz, biologiste et éthologue zoologiste autrichien, établissait le concept de Kindschema, schéma infantile, sans aucun doute une piste pour expliquer ces différences de traitement. Selon lui, une série de caractéristiques physiques déclenche presque automatiquement une émotion et des comportements stéréotypés de care chez l'humain adulte. Joues fortement bombées, grands yeux, membres épais et courts, crâne disproportionné ou encore geste gauche. Cette thèse a d'ailleurs été corroborée par les chercheuses américaines Jergana Nenkov et Maura L. Scott en 2014, puis quatre scientifiques de l'Université d'Oxford en 2016. Selon ces recherches, la mignonnerie serait un moyen comme un autre pour un être vivant d'assurer sa survie. Les animaux peuvent d'ailleurs développer des traits ou des comportements destinés à accroître leur capacité à se faire aimer de leur maître et maîtresse. Ainsi, le chat miaule et le chien a développé un muscle au-dessus des yeux seulement pour pouvoir mieux communiquer avec nous. À ce jeu-là, l'écureuil n'a rien à envier à personne. Les traces qu'il laisse dans la culture populaire ne laissent pas de place au doute. Au royaume de la mignonnerie, l'écureuil est roi. Pensons au niais Scrat de l'air de glace, à la délicieuse famille d'écureuils de Merlin l'Enchanteur, aux adorables Flora et Ulysse, ou encore à Tic et Tac, les rangers rongeurs du risque. La culture web n'y échappe pas avec Dramatic Squirrel, l'un des mèmes les plus populaires de tous les temps. À défaut de l'être dans nos vraies vies, l'écureuil et son petit côté kawaii est déjà bien installé dans nos imaginaires collectifs. L'écureuil en cinq petites noisettes. Si tous et toutes auront noté que l'écureuil semble très pingre en matière d'expression de son affection, ceci est loin d'être l'unique frein à nos velléités d'adoption. Disons-le sans détour, accueillir un écureuil au sein de sa famille revient, à peu de choses près, à récolter une large quantité de chardons pour se les glisser dans les chaussures. Voici donc ce que celui ou celle qui voudrait l'adopter devrait savoir. L'écureuil est agressif et n'hésiterait pas à mettre un puissant coup de griffe à un enfant en bas âge si celui-ci lui disputait sa noisette. L'écureuil est porteur de maladies, qu'il peut notamment transmettre aux autres animaux de compagnie, mais aussi à nos proches. Afin de ne pas être malheureux, l'écureuil doit avoir une cage de la taille d'une cabine téléphonique londonienne. Un animal qui se marie assez mal avec la crise du logement à Montréal, par exemple. Comme tout bon rongeur, l'écureuil, ça va de soi, ronge. Câbles électriques, lacets, tissus et titites n'y survivront pas. Mais il est aussi remuant et bondissant et renversera vases et autres bibelots. Si, abandonner son écureuil lors d'un départ en vacances est tout aussi cruel que laisser son chien, les éléments précédents le laissent deviner. Personne n'acceptera jamais de garder votre écureuil lors de votre séjour au chalet. Si cela ne suffisait pas et que vous décidiez de vous lancer malgré tout dans l'entreprise, sachez que vous embrasseriez alors une vie de hors-la-loi. Le règlement provincial sur les animaux en captivité, C61.1, R5.1, ne fait pas grand mystère de ce que l'on peut faire d'un animal recueilli. Un animal gardé en captivité en vue de sa réhabilitation doit être libéré dans la nature dès qu'il est apte à y survivre seul. C'est ainsi qu'une gifle est venue s'abattre sur ma joue de rêveur expatrié. Si des milliers d'années ne nous ont pas suffi à faire des écureuils, des compagnons domestiqués, ce n'est pas en deux après-midi d'été au parc La Fontaine à jouer au molki que j'y parviendrai. Et il serait sage de l'accepter. Nemo Liotier a passé les 30 premières années de sa vie dans l'Hexagone. Il vit aujourd'hui à Montréal, où il occupe le poste de coordonnateur pour Atelier 10. C'était « Pourquoi n'a-t-on jamais domestiqué les écureuils ?» Une lettre ouverte de Nemo Liotier, parue le 1er juin 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Les Canadiens abonnés aux fraudes bancaires selon un sondage, un texte d'Alex Fontaine, paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir. Si le coût de la vie préoccupe beaucoup les Canadiens, il devrait en être autant pour la sécurité de leurs avoirs. Selon un sondage léger réalisé pour Options consommateurs et rendu public mercredi le 17 avril 2024, 29% des personnes interrogées ont rapporté avoir été victimes d'une fraude bancaire en 2023. On entend ici de l'argent retiré d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit sans le consentement du détenteur. Heureusement, 81% des victimes ont été en mesure de récupérer les fonds volés, bien que certains aient rapporté avoir dû multiplier les démarches auprès de leur banque pour se faire rembourser. En date du 31 mars 2024, le Centre antifraude du Canada rapportait 7908 victimes de fraude, représentant des pertes financières de 123 millions de dollars. En 2023, près de 42 000 Canadiens ont rapporté des fraudes d'une valeur totale de 569 millions. Ces données démontrent l'importance d'accroître la protection légale offerte aux consommateurs en cas de fraude bancaire, afin de faire reposer une responsabilité plus importante sur les institutions financières, affirme Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options consommateurs, dans un communiqué. Signe que le phénomène en inquiète plusieurs, plus du quart des répondants, 26%, ont tenté d'accéder à leur dossier de crédit par l'entremise des deux principales agences de crédit, TransUnion et Equifax. Une proportion toutefois jugée insuffisante par Options consommateurs, qui considère cette pratique comme un des principaux moyens de s'assurer de ne pas avoir été victime d'un vol d'identité. L'alimentation vole la vedette. Dans l'ensemble, 68% des répondants se sont dit préoccupés par leur situation financière. Parmi les éléments qui inquiètent le plus les personnes interrogées, on trouve les coûts de l'alimentation, 73%, de l'essence, 32%, et du loyer, 31%. L'inflation alimentaire a amené des changements dans les habitudes d'achat de 83 % des répondants, qui désormais privilégient des marques plus économiques, 44 % ou, plus inquiétant encore, achètent moins de nourriture, 32 %. De plus, 23 % d'entre eux disent prioriser le coût des aliments sans égard à leur valeur nutritive. Plus de la moitié des répondants ont également rapporté une hausse importante des coûts de l'habitation, 54 % attribuable à des augmentations de loyer ou des frais hypothécaires ou à un déménagement. Ces personnes ont réagi en réduisant leurs dépenses de loisirs et d'alimentation, entre autres. Dans le cadre de la publication de ce sondage, Options Consommateurs a aussi fait connaître les résultats de la troisième édition de son baromètre de la confiance. Cet exercice permet de mesurer la confiance qu'accordent les Canadiens à 8 industries, banques et institutions financières, commerce de détail, voyage, assurance, voiture, immobilier, télécommunications et alimentation. En 2023, c'est le secteur financier qui a obtenu le meilleur pointage, 57 % ex aequo avec le commerce de détail. En queue de peloton, le secteur de l'alimentation, qui a gagné la confiance de moins de la moitié des sondés, 48 % devancé de peu par celui des télécommunications, 50 % De nombreuses sources de frustration. L'enquête met le doigt sur plusieurs autres bobos. Près de 7 répondants sur 10, 69 % ont indiqué être ou avoir déjà été abonnés à un service payé au moyen de versements mensuels automatiques, dont le contrat se renouvelle automatiquement, comme la diffusion en continu et les boîtes repas. De ce nombre, 47 % ont déjà oublié d'annuler leur abonnement et 43 % rapportent avoir eu de la difficulté à se désabonner. En 2023, 39 % des répondants ont publié sur le web une critique négative contre une entreprise. Le tiers de ces personnes disent que l'entreprise les a contactés après leur plainte, soit pour régler leurs problèmes, soit pour leur demander de retirer leurs commentaires. Si 92 % des répondants ont fait un achat en ligne au cours de la dernière année, tous ne sont pas satisfaits de leur expérience. En effet, 35 % des sondés ont rapporté des problèmes avec leur achat. Toujours en consommation, 15 % des personnes interrogées ont affirmé avoir déjà payé leurs achats par l'entremise d'entreprises de financement qui permettent l'étalement sur plusieurs versements. Ce taux est plus élevé pour l'achat d'appareils électroménagers, 20 % et plus bas pour les vêtements, 11 % et les produits de beauté, 10 % Le sondage a été réalisé en ligne du 14 au 26 février 2024 auprès d'un échantillon aléatoire de 2502 Canadiens de 18 ans et plus. C'était les Canadiens abonnés aux fraudes bancaires selon un sondage, un texte d'Alex Fontaine paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir.
Le couple, autant des possibilités innombrables. Un texte de Nicolas Langelier, paru le 3 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Les applications de rencontres comme Tinder et Bumble ont-elles tué le couple? C'est une question que soulève notre rédacteur en chef dans le contrepoint de notre pièce 16, dans le champ amoureux de Catherine Chabot. Difficile d'imaginer que les choses pourront s'arranger dans notre histoire d'amour avec le couple. De penser que notre culture de l'accomplissement individuel des options illimitées et des plaisirs sans cesse renouvelés nous donnera envie de nous contenter d'une seule personne pour bien longtemps. D'espérer qu'avec toujours plus de technologies de toutes sortes dans notre vie, toujours plus de réseaux et d'applications et de géolocalisations très, très précises et de moyens d'écrire « salut » émoji souriant à des gens au milieu de la nuit, un peu « soul », difficile d'espérer, donc, que les choses deviennent plus faciles. Au contraire, bien sûr, nous aurons beau apprendre de nos erreurs et de nos psys, devenir plus éduqués et expérimentés, les circonstances générales ne favoriseront certainement pas un meilleur taux de succès. Si le couple était un exercice périlleux en 1879 ou en 1991, la multiplication des raisons et des moyens d'aller voir ailleurs n'augure rien de bon pour l'institution amoureuse au cours des décennies à venir. Madame Bovary aurait vécu bien d'autres tourments avec Bumble. Déjà que nous sommes rarement satisfaits, il faut bien le reconnaître. En examinant nos relations amoureuses, nous les jugeons trop ceci ou pas assez cela. En tout cas, pas à la hauteur des attentes que nous avions placées en elles. Nous voulons mieux, souvent à tous les niveaux. Plus d'amour profond et immuable, de sexe à couper le souffle, de stimulation intellectuelle, de passion et de pardon, d'explosion de bonheur. En couple, nous avons tendance à envier aux célibataires leurs nombreuses options de sexe avec des quasi-inconnus et le fait qu'ils n'ont pas à vivre le jour de la marmotte sentimentale qu'est souvent la vie à deux. Cette possibilité constante de remettre les compteurs à zéro avec quelqu'un d'autre est particulièrement attirante pour l'individu du 21e siècle. Et toujours, encore et encore, nous sous-estimons ou nions carrément combien les aventures extra-conjugales sont des choses tentantes et excitantes et combien il est difficile de rester avec un seul partenaire pour toute la durée de nos existences de plus en plus longue. Et cet aveuglement, volontaire ou non, au cœur de la plupart de nos relations, nous cause toutes sortes de problèmes. Peut-être que c'est le couple lui-même qui est devenu irréaliste. Peut-être qu'il est un vestige d'une époque révolue, un anachronisme, comme le patriarcat et les centrales au charbon. Après tout, avoir des enfants n'est plus une obligation, ni pour s'occuper de la ferme ou de la boutique, ni pour se conformer aux normes sociales et religieuses. Il est même dorénavant possible de faire un enfant avec comme seul partenaire un médecin spécialiste. Et quand on élimine les enfants de l'équation, le couple perd un peu, beaucoup, de sa raison d'être fondamentale quand on y pense. Pourtant, et c'est ce qui complique tout dans cette histoire, nous continuons à la vouloir encore tellement cette vie à deux. Peu importe les chances de succès microscopiques, nos échecs à répétition, nous nous obstinons à chercher la personne avec qui passer le reste de nos jours. Parce qu'il y a en nous ce désir biologique de trouver un partenaire, cet instinct inscrit dans nos gènes depuis la nuit des temps, comme il l'est pour les gibbons et les perruches. Parce qu'il y a nos hormones. Parce que les romantiques nous ont laissé en héritage une vision de l'amour pour le moins hors du commun. La fiction a gâché le couple pour tout le monde, c'est un fait. Parce que ça reste profondément plaisant d'avoir quelqu'un avec qui faire équipe, développer des projets, s'asseoir devant un film un vendredi soir. Alors, confronté à ce contexte impossible, en même temps qu'à ce besoin dévorant, plusieurs ont essayé de rénover l'institution amoureuse depuis quelques décennies, et le mouvement semble s'accélérer en ce moment. Nous réévaluons notre conception de la fidélité, notre emphase obstinée sur la monogamie. Nous imaginons de nouvelles structures, couples ouverts, polyamour, trouple, etc. Nous envisageons la relation amoureuse comme un moteur qui a juste besoin d'une mise au point pour ronronner à nouveau. Tous des efforts louables et assurément nécessaires. Après tout, il est absurde de continuer à essayer de copier-coller un modèle qui trouve son origine dans une époque et un contexte bien différents des nôtres. La femme et l'homme de l'âge de bronze n'avaient pas à composer avec les flous contours éthiques des communications virtuelles. Mais, peu importe les structures, ces défis majeurs demeurent. La complexité de nos émotions et de nos blessures, le langage ancestral de notre biologie, la charge érotico-émotive d'un regard juste un peu trop long, le désir plus fort que tout d'embrasser ses lèvres nouvelles, de toucher ce corps inconnu. Il restera toujours l'envie de recommencer sa vie à neuf, en mieux, parce que c'est le printemps et que la nuit est douce dans Hochelaga. Et donc, nous continuons à chercher l'agencement. Partenaires, formules, règles explicites et tacites, qui nous rendra heureux, enfin, à ce moment précis de notre vie courte mais longue. Sans perdre espoir que, d'échecs désastreux en ratages un peu moins pires, de tromperies douloureuses en entente à l'amiable, nous puissions trouver l'amour et le contexte qui permettra de le faire durer toujours, cet amour, en dépit de tous les obstacles et de la réalité des jours et des nuits et du cours changeant et imprévisible du cœur humain. Nicolas Langelier est le directeur d'Atelier 10 et le rédacteur en chef de Nouveaux projets. C'était Le couple au temps des possibilités innombrables, un texte de Nicolas Langelier, paru le 3 mai 2023 dans le magazine Nouveaux projets.